De Bonnie and Clyde avec Serge Gainsbourg. Celle-ci, cette version avec Johnny Hallyday, est un peu moins connue. Voilà, on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel opus. Bye bye, merci d'écouter votre radio locale. Sur RVE. 1, 2, 3.
RVE, bonne matinée. Il est 10h. Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, la rétrospective de votre actualité de la semaine. On a beaucoup parlé alimentation, le salon de l'agriculture sauf ce week-end, mais l'actualité agricole était ailleurs. Cette semaine, on apprenait un énième rebondissement dans le dossier Lactalis. Le géant mondial du lait aurait fait pression sur un laboratoire d'analyse de Nantes pour qu'il lui livre systématiquement des résultats valides. Après contrôle de ses échantillons, Lactalis dément avoir fait pression pour truquer les tests. On apprenait aussi cette semaine que près de 3/4 des fruits et 41% des légumes non bio portent des traces de pesticides. Selon un rapport publié par l'ONG Génération Future, qui s'est basé sur les chiffres publics de la Direction Générale de la Répression des Fraudes entre 2012 et 2016. Et puis cette semaine, les agriculteurs ont aussi manifesté contre les accords de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur, autrement dit l'Amérique du Sud. Au terme de ces accords, le poulet brésilien aux antibiotiques et le bœuf argentin aux hormones pourraient entrer dans les supermarchés français. Emmanuel Macron, qui recevait les agriculteurs cette semaine, s'est voulu rassurant, il n'y aura jamais de bœuf aux hormones en France, a-t-il déclaré. Il avait déclaré les yeux dans les yeux qu'il n'avait pas de compte caché à l'étranger. Le procès en appel de Jérôme Cahuzac s'est achevé cette semaine. 3 ans de prison ferme, la même peine qu'en première instance ont été demandées. Cahuzac en prison, ce n'est pas une décision de justice, a plaidé son avocat Éric Dupond-Moretti. Il y en a un autre ministre qui a repris l'expression de Cahuzac, c'est Gérald Darmanin. Je vais vous dire quelque chose, les yeux dans les yeux, je n'ai jamais abusé d'aucune femme, ministre des comptes publics, successeur d'ailleurs de Jérôme Cahuzac au poste du budget. Qui exclut donc de démissionner après avoir été conforté par le classement sans suite d'une plainte pour viol, même si l'enquête se poursuit pour une autre plainte pour abus de faiblesse. Le plan du gouvernement contre la radicalisation islamiste a été dévoilé en fin de semaine. Il s'agira de renforcer le contrôle des écoles hors contrat pour contenir l'émergence de structures islamistes et puis de créer des places spéciales en prison pour les détenus radicalisés, pour les isoler des autres détenus. 1500 places supplémentaires vont être créées. On pourra aussi désormais écarter un fonctionnaire radicalisé et puis les réseaux sociaux devront pouvoir retirer en une heure des contenus illicites. À propos de djihadistes, on apprenait cette semaine qu'une djihadiste française de 27 ans va être expulsée d'Irak après y avoir été condamnée. C'est la première fois qu'une djihadiste va revenir en France après avoir purgé sa peine ailleurs. Arrêtée l'été dernier à Mossoul avec ses 4 enfants, 3 ont déjà été rapatriés en France. Son mari est mort. Elle sera probablement incarcérée dès son arrivée en France, a déclaré la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Enfin, le feuilleton de Johnny Hallyday s'est poursuivi cette semaine. On a appris que la gestion de la fortune de la star décédée est confiée à des banques. Selon les termes du testament arrivé chez les avocats de Laura Smet et David Hallyday qui contestent ce testament, document qui précise bien que l'exclusion de David et Laura est intentionnelle car ils ont déjà reçu des rétributions par le passé. L'acteur Jean Reno, ami de Johnny et Laetitia, a pris la parole à son tour cette semaine pour appeler toute la famille à ne pas se laisser gagner par la médisance et la haine. Voilà pour cette rétrospective de votre actualité. Merci de nous avoir choisi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
Aveson 37, il est 10h03, c'était la rétrospective de l'actualité de la semaine. La météo pour celles et ceux qui nous suivent. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous aurons un dimanche ensoleillé avec un ciel bleu, des températures fraîches, certes, 2 à 3 degrés maximum dans l'après-midi et puis dans la soirée et la nuit prochaine, des températures négatives.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche 25 février. Eh bien, on va rester dans la tradition olympique, puisque on pourra écouter Hervé Joly, qui était déjà notre invité la semaine dernière. Eh bien, comme cette fois-ci, on l'aura comme invité de la section Rambouillet olympique en première partie de cette émission. Hein. Notamment, nous découvrirons tout sur le prochain semi-marathon de Rambouillet, qui se déroulera le 11 mars. Et puis, en deuxième partie, avec Hervé, nous reviendrons sur la deuxième et dernière semaine des Jeux d'hiver de Pyeongchang. Voilà, tout de suite, donc, on commence avec la première partie et Hervé Joly comme président du Rambouillet olympique.
Alors Hervé Joly, rebonjour, merci d'être avec nous. Hervé, on parlera des Jeux olympiques dans la deuxième partie de cette émission, hein, on a eu quelques nuits blanches, on va pouvoir dormir un peu plus tranquillement. Mais en première partie, ben, j'accueille le président de Rambouillet Olympique, qui est à 15 jours du semi-marathon de Rambouillet. Alors Hervé, entre les nuits blanches qu'on vit du côté de Pyeongchang et la préparation de ce semi, ça doit être des journées bien équilibrées et bien remplies.
Oui, là c'est, on va dire qu'on est dans une période un peu tendue, ça va être comme ça encore pendant une quinzaine de jours, parce qu'on a beau avoir travaillé en amont depuis de longs mois sur l'organisation de cette manifestation, on a toujours tendance à avoir peur d'avoir oublié quelque chose ou à se préparer à un imprévu dernière minute, comme c'est souvent le cas. Donc c'est vrai que là on est voilà, on revoit tous les détails pour chaque point de l'organisation, et il y a de quoi faire.
Alors justement, imprévu de dernière minute, bah, on l'a vécu récemment dans la région, sur Bullion. Hein. Bullion était venu nous parler de la préparation de leur semi, et puis le mauvais temps les a obligés à tout annuler. C'est un risque aussi qu'on peut rencontrer.
Alors, je touche du bois. Oui. On n'a jamais rencontré ce cas-là à Rambouillet. C'est vrai que nous, on est un petit peu plus loin dans la saison, mi-mars. Mais effectivement, c'est un risque qu'on ne maîtrise pas. Heureusement pour nous, c'est jamais arrivé à Rambouillet, mais effectivement, la météo, ça fait partie des impondérables pour lesquels là, on peut absolument rien faire du tout. Hein.
Alors, le semi-marathon, Hervé, repart, 31e semi de Rambouillet. On le sait, hein, on en avait beaucoup parlé, ça n'avait pas pu se dérouler l'année dernière. Cette fois-ci, l'événement sportif numéro 1 de l'année sur Rambouillet revient. Dans quelles conditions? Avec un peu de changement, mais avant, on en parlait hors antenne, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Vous avez un dossier beaucoup plus épais qu'il y a quelques années, ce qui est quand même assez sidérant.
Alors c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué chaque année. D'abord parce qu'on nous demande davantage de choses chaque année, notamment pour tout ce qui concerne l'administratif, on va dire. C'est vrai que un certain nombre d'organisateurs ont jeté l'éponge, et on comprend pourquoi très facilement, parce que il y a des institutions, voilà, avec lesquelles ça devient maintenant très compliqué pour avoir des autorisations. Tout le monde ouvre le parapluie, ce qu'on peut comprendre, pour se protéger. Mais c'est vrai que maintenant, ça devient très très compliqué, et on nous demande des documents supplémentaires chaque année. C'est encore le cas cette année avec un document qu'on nous avait jamais demandé depuis 30 ans, avec des formulaires, pas d'une ou deux pages à remplir, mais par exemple, actuellement, on travaille sur un formulaire pour les zones Natura 2000 en forêt, c'est 25 pages à remplir.
Voilà. Oui, et par Internet, et pratiquement sans aide, ce qui paraît quand même assez incroyable.
Alors c'est vrai que maintenant, tout se fait par Internet, voilà. Pour avoir un interlocuteur au téléphone, ça devient quelquefois compliqué, voire très compliqué. Et puis c'est vrai que un peu le paradoxe, c'est même risible, c'est que dans certains organismes, on ne citera pas de nom, où on vous demande de remplir ces formulaires, les gens qui vous demandent de le remplir ne savent pas eux-mêmes forcément ce qu'il faut répondre à certaines questions. J'en ai encore eu la preuve hier au téléphone.
Alors, on rencontre naturellement beaucoup d'organisateurs comme vous à longueur d'année. C'est un leitmotiv qui revient. Hein. Toutes ces difficultés à mettre maintenant administrativement des épreuves sportives sur pied, ça peut décourager à l'avenir certains bénévoles et certaines organisations.
Ah ben, non seulement ça peut décourager, mais ça a déjà découragé beaucoup de courses. Hein. Il y avait eu un numéro d'une grande revue spécialisée en course à pied au mois de janvier qui avait fait le bilan de entre 120 et 150 courses annulées l'année dernière en France, dont une dizaine dans les Yvelines, mais on comprend très facilement pourquoi, parce que c'est vrai que maintenant c'est devenu un vrai casse-tête pour organiser certaines épreuves. Alors heureusement, il y a des organismes avec lesquels ça se passe plutôt bien. Nous, on a eu la chance cette année d'être aidés notamment par la mairie de Rambouillet, le service des sports, mais il y a d'autres organismes avec lesquels c'est un petit peu plus compliqué, qui ne se rendent pas forcément compte de la difficulté pour les organisateurs de mettre en place une organisation comme celle-là. Et effectivement, je connais un certain nombre d'organisateurs qui ont fini par jeter l'éponge.
Oui, en tout cas, sur Rambouillet, ça va quand même repartir. 11 mars 2018, vous notez bien cette date, hein, il y aura le 31e semi-marathon de Rambouillet qui va quand même un tout petit peu évoluer au niveau de son parcours.
Oui, alors effectivement, cette année, la grande nouveauté, suite à l'annulation de l'an dernier, nous avons été contraints de modifier le parcours, puisque désormais il n'y aura plus de passage en centre-ville de Rambouillet.
Oui, c'est bien dommage, hein, c'était sympa.
Voilà, mais nous, c'est une contrainte qu'on nous a imposée, donc on est obligé de s'y plier. Alors les coureurs ne seront pas forcément perdants parce que ils ne traverseront plus le centre-ville, mais à la place, ils vont traverser le parc du château de Rambouillet.
Ouais, c'est sympa aussi.
Voilà, ce qui est plutôt agréable, on va dire. C'est un peu plus bucolique comme cadre, voilà. Et de ce côté-là, ils sont plutôt gagnants. Mais effectivement, avec toutes les contraintes que ça impose, puisqu'il y a un autre secteur, du côté de la clairière notamment, où le parcours a été modifié, et il faut revoir une partie de l'organisation, notamment de tous les postes de bénévoles, puisque rien que sur le parcours, il y a à peu près 110 bénévoles qui seront placés à chaque intersection, sur l'ensemble du parcours, et puis sur l'ensemble de la manifestation, de la matinée, nous aurons 250 bénévoles qui seront là pour essayer de faire en sorte que cette course soit un succès.
Alors, Hervé, 9h30, c'est le départ. Hein. Ceux qui veulent aller, on le dit à chaque fois sur le pas de leur porte, hein, et encourager les coureurs, ils pourront le faire sans aucun problème. On va détailler le parcours. Ils vont partir donc devant le stade du Vieux-Moulin. C'est devenu une tradition depuis maintenant plusieurs années.
Oui, la zone de départ, la zone d'arrivée ne change pas. Ça sera toujours rue de l'Étendard, devant le stade du Vieux-Moulin. Alors, la petite particularité, c'est juste après le départ, c'est-à-dire que une fois qu'ils descendront la rue Lenôtre, au lieu de rejoindre le centre-ville, ils tourneront à gauche dans la rue du Racinet et ils traverseront tout le quartier du Racinet, là-haut par le plateau la Plaine des Sports, redescendront sous la voie ferrée pour rejoindre la sortie de Rambouillet au niveau du monument aux morts américains, là-bas sur la route de Gazeran, avant de rentrer directement dans le parc du château au niveau de ce monument aux morts américains. Ensuite, il y a tout un circuit dans le parc du château qui les fera passer devant le bassin du Rondeau, au pied du château. Ensuite, le petit parking au niveau de la rue de la Motte, là, la grille de l'inspection. Ils passeront derrière le 501e et les jardins familiaux. Ils ressortiront du parc du château au niveau de la grille au lapin, là-bas, sur la route de Saint-Léger, pour rentrer dans la première partie forestière. C'est-à-dire la route qui les emmènera directement à l'étang du Coupe-Gorge, que les Rambouillitains connaissent bien.
Oui. Donc là, on retrouve le parcours initial des précédents semis. Hein.
Voilà, ça sera le cas jusqu'au Paty, c'est-à-dire là-bas à Rambouillet, où là, il y aura un petit changement, puisque la traversée de la clairière, contrairement aux années précédentes, ne se fera plus par la Grange Colombe, le pont Kerbras et le collège de Vivonne, mais passera de l'autre côté, c'est-à-dire descendra dans la totalité la rue du Vieil Orme, derrière Leclerc notamment, voilà, et les amènera directement à la ferme de la Villeneuve, juste avant l'hippodrome, où là ils retrouveront l'ancien parcours.
Ah, d'accord. Donc c'est vraiment quand même un parcours complètement différent que les années précédentes. Ça veut dire qu'on aura des temps de repère, des points de passage qui seront là aussi différents pour les coureurs.
Voilà, tout à fait. Alors, voilà, cinquième kilomètre, voilà, un tout petit peu après la grille au lapin. Le dixième kilomètre, lui, il sera situé, donc, c'est-à-dire un peu avant la mi-course, au niveau de la Croix Saint-Jacques au Perret. Puis ensuite, ça sera le quinzième kilomètre au niveau de la rue Félix-Lorrain, là, entre les deux, après avoir coupé l'axe Rambouillet-Chevreuse et avant de couper celui de Rambouillet-Clairefontaine. Et puis ensuite, la partie finale par les temps d'or, comme les années précédentes.
Alors, Hervé, ce qui faisait souvent mal dans le semis, jadis, c'était selon Faux-Plat, à côté de Vivonne, hein, quand on avait passé la Grange Colombe, ben, il n'y en aura plus.
Non, mais il y a d'autres difficultés. Ouais. Alors, on va dire que pour faire court et simple, pour les coureurs, on va leur dire que la quasi-totalité des difficultés vont être concentrées sur les 5 premiers kilomètres du parcours. C'est un peu le changement. Et notamment très rapidement, puisque moins de 400 mètres après le départ, ils vont attaquer la première bosse là dans la rue du Racinet, qui va déjà faire une première sélection, un premier tri. Voilà, parce qu'elle est pas très très longue, mais elle est quand même assez raide. Donc là, ça va être, on va dire, la première difficulté du parcours. Et puis ils auront aussi dans le parc du château, juste après le 501e, avant d'arriver à la grille au lapin, là, toute une série que les coureurs connaissent bien de montées et de descentes, qui sont assez casse-pattes. Et qui feront déjà une nouvelle sélection. Donc je pense que déjà à l'entrée de la forêt, au cinquième kilomètre, on aura déjà une idée assez précise des vainqueurs potentiels.
Oui, puis ça évitera peut-être certains cavaliers seuls, comme ça a souvent été le cas dans les années précédentes sur le semis de Rambouillet. Hein.
Là, effectivement, oui. Ça va changer un petit peu la stratégie de la course. Alors, il va falloir prévenir les coureurs, ceux qui avaient l'habitude de partir très très vite, parce que l'ancien parcours, le premier kilomètre, était le plus roulant, on va dire, légèrement en descente. Là, attention à ceux qui ont tendance à partir très vite, parce qu'ils risquent de le payer cher très rapidement.
Oui, alors 1h08, 1h09, 1h10, c'est un temps raisonnable sur un parcours comme ça?
Alors cette année, on part un petit peu dans l'inconnu, puisque c'est la première fois que on utilise ce parcours-là. On va, pour faire simple, partir à peu près sur les bases d'1h10, et on regardera ça d'un peu plus près. C'est vrai que là, ça change un petit peu les données par rapport à d'habitude, mais plus que le temps, ça va dépendre aussi de la concurrence qu'il peut y avoir. Parce qu'on le sait, hein, par expérience, si c'est un coureur tout seul, c'est un peu différent. Alors que s'ils sont deux ou trois à la bagarre, effectivement, la concurrence fait que ça va un tout petit peu plus vite.
Justement, on connaît les engagés, c'est plus la peine de s'inscrire, tout est complet. Un peu plus de 2000 coureurs, 2500, 2600.
Alors on a arrêté les inscriptions à 2500 coureurs. C'est complet depuis le 17 janvier. On reçoit encore tous les jours des demandes d'inscription. On aurait pu largement dépasser les 3000 coureurs. Pour des raisons de sécurité, on s'est limité à 2500 cette année. Et c'est vrai qu'il y a encore énormément de demandes, mais malheureusement, on ne peut pas satisfaire toutes les demandes. C'est un peu la rançon de la gloire. Depuis mi-janvier, c'est terminé. On ne prend plus aucune inscription.
Et certains viendront pour la victoire finale, et puis d'autres peut-être pour préparer le prochain marathon de Paris aussi. Hein.
Oui, tout à fait, puisqu'il y aura pratiquement un mois avant le marathon de Paris, ce qui est un peu une préparation idéale pour beaucoup de coureurs. Hein. D'ailleurs, certains nous l'ont dit très clairement. Effectivement, c'est un peu un laps de temps, on va dire, idéal entre ces deux courses, et ça va permettre à beaucoup de coureurs de se tester à la sortie de l'hiver, parce que pour beaucoup de coureurs, ça va être aussi leur première course sur route, ou en tout cas leur premier semi-marathon de l'année 2018, ce qui leur permettra déjà de pouvoir se jauger par rapport à leur entraînement.
C'est vrai que ça reste, de par son antériorité, un semi de référence. Vous avez été novateur, vous avez été les premiers à mettre une épreuve comme celle-là sur place. Ensuite, maintenant, il y en a eu d'autres, hein, une palanquée un peu partout, sous toutes les formes. C'est ça la force du semi de Rambouillet, Hervé, 31e édition, quoi. Et même nous, on a commencé avec vous, hein, il y a maintenant 30 ans, en mars 88. C'est ça votre force.
Oui, c'est Jean de Hédin qui avait mis ça en place.
C'était rue du Lac à l'époque, on partait.
Voilà, tout à fait, voilà, à la clairière. Jean de Hédin qui avait mis ça en place en 87.
Oui,
voilà.
Mais nous, on était en 88.
Voilà, et donc, pour cette première édition, là, on en est à la 31e. C'est vrai que le temps passe vite, oui, mais ça a toujours autant de succès. On le voit encore cette année. Je vous dis, on aurait pu prendre largement 500, peut-être 1000 coureurs de plus si on l'avait souhaité. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui marche bien. C'est un rendez-vous un peu incontournable du début de saison dans la région Île-de-France, pas seulement dans les Yvelines. Et puis, c'est une course référence, puisque c'est une course qui est mesurée officiellement, reconnue par la Fédération française d'athlétisme, qui servira cette année encore une fois de cadre au championnat départemental de semi-marathon, et qui sera également qualificatif pour les championnats de France, puisque c'est un parcours officiellement reconnu par la fédération.
Qu'est-ce qu'on gagne comme lot et comme prix?
Il y a un peu de tout à gagner selon les classements. Ça peut être des coupes, il y a des petites, il y a des lots divers et variés.
Pas des grands voyages des fois.
Non, alors il y a des tirages au sort, ouais. On peut remporter des lots, mais non, on n'a pas. Nous, vous savez, tous les ans, on a des coureurs que je ne vais pas dire professionnels, mais des coureurs de très haut niveau qui nous appellent pour savoir s'il y a des sommes d'argent importantes à gagner. Pour ceux qui veulent gagner leur vie en venant courir, c'est pas Rambouillet qui doivent venir. Voilà, et puis chaque coureur repartira avec au moins un t-shirt. Ensuite, il y aura les lots et les récompenses par catégorie, tous les podiums de toutes les catégories, et puis il y aura également à la fin de la remise des prix un tirage au sort pour emporter différents lots. pour celles et ceux qui seront restés jusqu'au bout de la cérémonie.
Un merci aux sponsors, aux partenaires qui vous sont fidèles depuis plus de 30 ans et qui ne vous ont pas lâché l'année dernière malgré cette interruption d'un an.
Oui, on a beaucoup de partenaires et sponsors différents qui nous aident tout au long de l'année. Alors on ne peut pas tous les citer parce qu'ils sont trop nombreux, mais c'est vrai qu'il y a des partenaires incontournables comme la mairie évidemment ou le conseil départemental des Yvelines. Je voudrais également saluer le cabinet d'assurance AXA tenu par monsieur Thierry Payon qui nous est fidèle depuis très longtemps et qui assure tous les coureurs. Et puis également quelqu'un qui nous a beaucoup aidé cette année, c'est monsieur Empereur là-bas pour le centre commercial Carrefour. Oui. Voilà, qui nous a donné un très gros coup de main sur cette manifestation. Je voudrais remercier également le magasin Rando Running à Rambouillet, que les coureurs connaissent bien, notre ami Rémi Mercier, Bureau Vallée également, un partenaire important. Et puis également Citroën, voilà, les établissements Vente Normale qui nous ont beaucoup aidés cette année, notamment avec un prêt important de véhicules, puisque dans les nouvelles mesures de sécurité mises en place cette année, on nous demande de mettre un certain nombre de véhicules à certaines intersections pour assurer la sécurité des coureurs.
Alors Hervé, ça sera l'événement sportif numéro 1 de l'année sur Rambouillet, 9h30 donc départ. On sera nous en direct sur cette antenne entre 9h et 11h avec Jean-Pierre et puis Arnaud Neveu. C'est l'événement phare pour votre club. Il y en a d'autres dans l'année. Je sais que malheureusement le triathlon, vous ne le faites plus depuis 2 ans, hein, depuis que la piscine est en reconstruction, 3 ans même maintenant. Il y a d'autres événements importants comme ces journées de Rambouillet olympique par exemple, ces journées décathlon.
Oui, alors les prochaines journées d'Hécathlon auront lieu le week-end des 5 et 6 mai. Voilà, elles sont ouvertes à tout le monde. Vous pouvez trouver toutes les infos nécessaires sur le site du club, rambouillet-olympique.fr, où là vous aurez toutes les informations que vous désirez. Ça va de 5 ans pour les plus jeunes participants jusqu'aux plus âgés, 86 ans. Voilà. C'est ouvert à tout le monde, tous les niveaux. Ça vous permet, sur une journée ou sur un week-end, selon votre choix, de découvrir des disciplines aussi variées que l'athlétisme, voilà, le tir, le cyclisme, le rameur, le basket, etc., etc. La particularité de ces journées cette année, malheureusement, c'est que nous n'aurons pas les épreuves de natation, puisque la piscine est en travaux et nous ne pourrons pas utiliser la piscine au mois de mai. Nous espérons pouvoir l'utiliser à nouveau pour les journées des 4 longs d'automne qui, elles, auront lieu au mois de septembre.
Et le promo triathlon repartira peut-être un jour ?
Alors, on aurait bien aimé que ça soit en 2018, même si ça nous paraît compliqué. On en saura un peu plus au mois de juin ou au mois de juillet, puisque ça sera la date limite pour déposer le dossier à la sous-préfecture. La piscine sera terminée normalement à ce moment-là, les travaux de la piscine, donc le bassin utilisable. Mais pour le triathlon, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il nous faut la totalité du parking pour pouvoir installer le parc vélo. Donc si c'est le cas, on le remettra en place cette année. Si malheureusement c'est pas le cas, il faudra encore attendre une année de plus, c'est-à-dire 2019, pour relancer le triathlon.
Alors, la force de votre club, Hervé, c'est cette multiplicité des activités sportives. Hein. Vous êtes combien au total au club ? Quel est la tranche d'âge ? Et la force, c'est justement de pouvoir pratiquer tous les sports.
Alors, nous sommes 262 inscrits cette année, répartis. Alors, ce n'est pas tout à fait encore la parité, mais on s'en rapproche doucement, puisqu'il y a 58% d'hommes pour 42% de femmes.
Ah oui, on y arrive, hein ?
Oui, voilà, on s'en rapproche, voilà. 262 adhérents de tous âges, je vous le disais, hein, ça commence très jeune, 5-6 ans, jusqu'à 86 ans pour le plus âgé. Et on a également parmi... alors, la tranche d'âge la plus représentée, on va dire que c'est la catégorie vétéran 1, c'est-à-dire les 40-49 ans, mais on a toutes les catégories à peu près représentées. Et on a également une école d'hécathlon d'une cinquantaine d'enfants qui fonctionne notamment le samedi, voilà, où ils peuvent se tester et découvrir des activités aussi variées que l'athlétisme, le roller, le VTT, l'ultimate, l'escalade, etc. Voilà.
Donc ça veut dire qu'on prend une licence qui est complètement omnisport, qui permet de pratiquer tous les sports. Après, chacun a un calendrier bien défini en fonction du sport qu'il pratique.
Alors, en fait, on a des activités proposées tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Voilà. Chacun pioche en fonction de ses disponibilités, des horaires qui lui conviennent et de ses préférences. Il n'y a aucune obligation chez nous. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez participer à toutes les activités sans aucun problème avec cette inscription. Et tous les jours, il y a des choses différentes. Vous pouvez aller nager, par exemple, le lundi. Alors là, pas en ce moment, puisque la piscine est en travaux le lundi. Faire de la gym le mardi, le mercredi. Aller courir le mardi. Faire de la musculation le jeudi, etc. Il y a de la course d'orientation. Il y a des séances de gym diverses et variées selon les niveaux. On a un peu toutes les activités. Voilà, du tir au pistolet, du tir à l'arc. Voilà, il y a du rameur, il y a de la course à pied, de la natation, du cyclisme. Enfin, il y a un peu toutes les disciplines.
Sur quelle fédération ?
Alors, depuis cette année, nous avons rejoint la FSCF. Au niveau de cette fédération, c'est une des grandes nouveautés de cette année. On s'est rattaché à cette fédération. Qui compte près de 250 000 adhérents à travers la France. Mmh. Et ça nous permet de pouvoir, je vous le disais, proposer une multitude d'activités à tous les gens de notre club, tous les jours, en fonction des horaires et des disponibilités de chacun.
Et si on veut faire la compétition vélo, la compétition natation ou la compétition athlétisme, on prend cette licence suffit ou on prend une licence parallèle de la fédération concernée ?
Alors ça dépend des activités, parce que dans notre club, on a des gens qui font du sport, on va dire, soit simplement pour s'entretenir ou pour le loisir, et puis on a aussi des gens qui font de la compétition, quelquefois même de haut niveau, dans différentes activités, que ça soit en trail, en course à pied. On a notamment un bon groupe de triathlètes, voilà, qui participent à des triathlons quelquefois de haut niveau, comme celui d'Embrun. Et puis, on a des gens qui font du cyclisme en compétition, et y compris dans d'autres activités. On a des gens qui font de la compétition en course d'orientation. Ces gens-là sont rattachés à une autre fédération en plus de la nôtre. Et quelquefois ils sont obligés de prendre une licence supplémentaire, comme c'est le cas pour le triathlon.
Alors harmoniser tout cela, c'est facile en tant que président, parce que un des concepts aussi de votre association sportive, Hervé, c'est le sport en famille. Ça, Jean de Hédin y tenait et vous êtes sur la même lignée.
Oui, ça c'est un de nos principes. Je vous le disais, on a tous les âges, des enfants très jeunes, des gens un peu plus âgés, aussi bien des hommes, des femmes, et puis nous on organise tout au long de l'année un certain nombre d'événements, comme les journées d'hécatlon dont on parlait, mais d'autres événements où tout le monde est convié, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, ou les conjoints, pour certains moments de convivialité, comme notre barbecue de fin d'année par exemple, voilà, ou la galette des rois, et même les conjoints qui sont pas forcément au club sont conviés ce jour-là. Ça nous permet de nous rencontrer. Je voudrais dire aussi que, attention, moi je suis pas du tout seul à gérer tout ça. Il y a tout un bureau derrière, il y a des gens qui font un travail énorme. Je voudrais remercier notamment Sylvie Lécuyer, Jérôme Molagnier, Marie Goetz, Hervé Lasserre, Micheline et Jean de Hédin, Laurent Destang, Anne Rebuffet, Elisabeth Falise. J'espère que j'en ai pas oublié. En tout cas, tous ces gens-là qui font que le club fonctionne, Corinne Lasserre, voilà, j'allais oublier aussi, tout au long de l'année, parce que, évidemment, moi, j'ai l'étiquette président, mais c'est pas moi qui fais tourner la maison tout seul. Oui.
Alors, Hervé, s'ils veulent venir vous rejoindre, tous, là, nos auditeurs, maintenant, ils attendent le forum des associations, et ça coûte combien, une licence à Rambouillet Olympique ?
Alors, ça dépend. La première année, le tarif plein, c'est 175 euros pour l'année. Mm-hmm. Ensuite, la deuxième année, ça dépend si vous avez réalisé un décathlon ou pas dans l'année, ce qui vous permet d'avoir un tarif réduit qui peut descendre à 125 euros, ça c'est pour les adultes. Pour les moins de 18 ans, c'est un tout petit peu moins cher, hein, puisque là on est sur la base de 120 euros. Et puis c'est dégressif en fonction du nombre de la même famille qui sont inscrits au club. Et encore une fois, pour ce tarif-là, vous pouvez pratiquer absolument toutes les activités du club, quelles qu'elles soient, autant de fois que vous le souhaitez par semaine.
Très bien. Hervé, merci. On boucle cette première partie et ensuite on va à Pyeongchang pour un bilan donc de cette quinzaine olympique qui nous a...
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loire Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
Et maintenant, une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE.
Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à vendre ou je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Tu ne m'appartiens pas. Une violente envie de descente lorsque t'embrasses ces gars. Je ne ferai point l'enfant, tout cela ne m'atteint pas. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir. Quand tu ne m'appartiens pas. Les bras, quand je fais sautiller sa frange, ses cris se tirent dans les graves. Quand le voyeur en redemande, moi je ne veux que Una. Le plus belle des plus belles jambes et de la place pour trois. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu aimes ça, Una. Dis-moi, dis-moi, non je craque. Tu ne m'appartiens pas.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Allez, Hervé, on a passé quelques nuits blanches hein, durant cette quinzaine. Alors, la semaine dernière, on s'était quitté avec 7 médailles pour faire le bilan de cette première semaine. Là, on arrive à 15. Ça veut dire que finalement, à Pyeongchang, on aura fait comme à Sochi. On n'aura pas eu les 20 médailles comme c'était l'objectif de la délégation française. Mais 15, on égale ce qu'on avait vécu donc en Russie à Sochi.
Oui, tout à fait. C'est le même total qu'il y a 4 ans, ce qui nous place pour l'instant à la 8e place, voilà, des médaillés, puisqu'entre-temps, la Suisse est passée devant nous. 15 médailles, 5 or, 4 en argent et 6 en bronze. Mmh. Alors, on s'est arrêté effectivement à la 7e. Ensuite, on a enchaîné avec une nouvelle médaille de bronze. C'était le week-end dernier avec le relais 4x10 km hommes en ski de fond.
Ouais, ça c'est bien pour le ski de fond d'avoir des médailles. Hein.
Voilà, tout à fait, avec deux skieurs qu'on connaît un peu plus que les autres peut-être, c'est Jean-Marc Gaillard et Maurice Magnifica, auxquels il faut rajouter Adrien Backscheider et Clément Paris. Très belle médaille de bronze pour ce relais ski de fond. Hein. On va rappeler que la France ne fait pas partie des nations dominantes dans le gratin du ski de fond. Donc c'est une très belle performance qu'ont réussi ces quatre relayeurs.
Oui, parce que Hervé, on se rappelle effectivement avoir fini des Olympiades sans avoir aucune médaille en ski de fond. C'est un sport qui rentrait très, très, très souvent bredouille.
Oui, c'est vrai que le ski de fond est archi dominé par les pays nordiques, notamment. C'est souvent que c'est entre eux que ça se règle. La France, on a toujours un petit peu de mal à tirer notre épingle du jeu dans ce sport-là, même si dans le passé, il y a eu des grands champions de ski de fond en France. Mais au niveau international, c'est très relevé. Donc, une médaille olympique en ski de fond, on ne peut que s'en féliciter.
Alors après, une des images fortes, peut-être l'image forte donc de cette quinzaine des Jeux, c'est Martin Fourcade qui décroche sa troisième médaille d'or. Hein. Il va d'une petite spatule donc entrer dans l'histoire du sport français parce qu'il est maintenant avec quatre médailles, hein, on va quand même le dire. Il est parmi les sportifs les plus titrés sur le plan des Jeux Olympiques avec deux escrimeurs, Doriola et puis Godin. Et il porte à trois donc des médailles d'or sur une même Olympiade, immense et fabuleux champion.
Oui, tout à fait. Alors, avec une course un petit peu d'anthologie, on va le dire, sur cette mass start, puisqu'il s'est imposé pour 18 millièmes de seconde devant Simon Schemp, l'Allemand.
Oui, il avait perdu pareil, de la même façon, il y a 4 ans, à Sochi, pour l'or.
On va dire que c'est un juste retour des choses. Mais même lui, il avait eu du mal à y croire à l'arrivée, parce que l'écart était tellement infime que c'est vrai qu'il a fallu attendre plusieurs fois le passage de la photo finish pour départager les deux skieurs. En tout cas, une très belle nouvelle médaille pour Martin Fourcade qui vient s'ajouter à sa collection. On va rappeler qu'en tout, maintenant, ça lui fait
4 médailles d'or au total et 3 dans une même Olympiade.
Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Plus des médailles d'argent qu'il a eu aussi dans les relais. Très beau palmarès pour Martin Fourcade. On va dire une médaille de plus pour cet immense champion qui devient le sportif le plus titré aux Jeux Olympiques, en tout cas le sportif français. Avec ce nouveau total de médailles.
Oui, et donc ce sont ces derniers Jeux, on ne le reverra pas en 2022 à Pékin probablement.
Ouais, je pense que, enfin, évidemment, c'est lui qui va prendre la décision. Je pense que ça va être compliqué. 4 ans, c'est long, au niveau et au très haut niveau. Est-ce qu'il va vouloir encore s'entraîner aussi durement, faire autant de sacrifices pendant 4 années supplémentaires? Ça, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais avec lui, on ne sait jamais. Hein. Je pense que ça va dépendre aussi un petit peu de sa forme physique, s'il estime. Parce que, en fait, pour lui, ça va être très simple. S'il estime qu'il peut encore gagner et figurer sur les podiums, il continuera. S'il voit que physiquement, il commence à avoir de plus en plus de soucis, je pense qu'il arrêtera.
Oui. Alors, Hervé, bien qu'on soit dans une année de Coupe du Monde de foot, ça sera peut-être le sportif français de l'année d'un quotidien que vous connaissez bien.
Ah, ben là, disons qu'il est très, très bien parti. Et que pour l'instant, bon, nous ne sommes que fin février, mais il est largement favori pour l'instant. Ça va être très difficile de faire mieux dans cette année, pendant cette année.
Alors ensuite, d'autres médailles sont venues donc s'ajouter dans l'escarcelle française, avec une aussi donc très sympa. Entre-temps, c'était celle d'argent de Marie Martineau.
Oui, alors Marie Martineau...
Sacré parcours, hein.
Voilà, on la connaît bien. D'abord, c'est la doyenne de l'équipe de France de ski. Marie Martineau, elle avait déjà remporté il y a 4 ans la médaille d'argent en halfpipe, donc ski acrobatique. C'était il y a 4 ans à Sochi. Et cette année, elle récidive en terminant encore une fois deuxième avec la médaille d'argent, toujours dans la même discipline. Donc une fille régulière, elle a déjà également remporté d'autres compétitions puisqu'elle a été notamment 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde de la spécialité en 2004 et 2017, c'est pour vous dire la longévité de cette athlète.
Alors elle pratiquait son sport,
elle avait arrêté, elle s'y est remise quand elle est devenue discipline olympique, et puis elle décroche donc deux médailles en deux Olympiades, à Sochi et donc à Pyeongchang, et elle tient une boîte de nuit avec son mari, hein, donc c'est quand même un parcours assez atypique.
Oui, c'est vrai.
Et une énorme famille.
C'est vrai qu'elle sort un peu de la norme, oui. Marie Martineau, mais en tout cas, bravo, parce que nouvelle médaille olympique à 33 ans,
oui.
Voilà. Pour sa deuxième carrière, on va dire ça comme ça, on peut lui tirer un grand coup de chapeau.
Alors, auparavant, on avait eu aussi Pinturo, hein, qui est toujours présent, qui répond toujours présent, donc en ski, médaille de bronze.
Oui, nouvelle médaille pour Alexis Pinturo, cette fois-ci au slalom géant. C'est sa deuxième médaille olympique à Pyongyang, puisqu'on va rappeler qu'il avait remporté l'argent sur le combiné. Sa troisième médaille aux Jeux, puisqu'il avait également remporté le bronze en 2014 à Sochi, toujours en slalom géant. Donc un Limoges champion, souvent présent aux Jeux Olympiques, on vient de le dire. Et puis un palmarès énorme en Coupe du Monde également. C'est, pour Alexis Pinturo, on va dire que ce sont quand même des Jeux qui se sont très bien passé, même si lui s'attendait peut-être un tout petit peu mieux.
Mais il répond toujours présent, hein, comme cette équipe de France de ski maintenant, qui gagne des médailles dans toutes les grandes compétitions.
Ben oui, c'est vrai que on peut comprendre qu'il soit déçu de ne pas avoir remporté l'or, mais terminer sur un podium olympique, c'est déjà une très belle performance. Et puis je pense que, sincèrement, avant les Jeux, si on lui avait dit qu'il repartait avec une médaille, il aurait été satisfait de toute manière.
Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces épreuves de ski? On va quand même citer l'exploit d'une Tchèque, hein, qui a remporté donc une épreuve de ski, je crois que c'est le Super G, et elle était aussi double championne olympique de snowboard, c'est assez phénoménal.
Oui, les DK, ouais, la Tchèque, alors ça c'est une grande première, parce qu'effectivement c'est deux disciplines qui par principe sont un peu différentes et s'imposer à aussi haut niveau pour une médaille d'or olympique dans ces deux disciplines, là, ça, on peut dire que c'est un véritable exploit.
Ouais. Elle conserve son titre en snowboard, donc double champion olympique de snowboard, et en plus, elle gagne le Super G en ski alpin cette année.
Oui, vraiment un immense exploit pour cette concurrente tchèque. Mm-hmm. On savait qu'elle était postulée pour une médaille, mais de là à remporter les deux médailles d'or dans ces deux disciplines, là on peut dire que vraiment c'est une très grosse performance.
Oui, les DK avec Fourcade, donc une des grandes héroïnes de ces Jeux. Moi j'aimerais avoir aussi une pensée particulière pour Lynn Sevon, qui termine par médaille de bronze, mais quelle carrière quand même.
Ah oui, Lynn Sevon.
Elle a été blessée, puis elle termine quand même sur le podium.
Oui, alors c'est vrai qu'elle n'a pas eu de chance souvent avec beaucoup de pépins physiques, mais une immense skieuse, Lynn Sevon. Voilà, un palmarès énorme. On pourra dire, quelle que soit la suite ou la fin de sa carrière, voilà, que elle a quand même marqué le ski alpin féminin d'une manière quand même importante. Tant au niveau de son palmarès que dans sa façon de skier. Et puis Lynn Sevon, c'est aussi une aura bien au-delà du ski, voilà, immensément populaire aux États-Unis.
Ouais. Elle aussi, c'était ses derniers JO. D'une façon générale, en ski, les gros ont répondu présent, même s'il y a eu aussi quelques surprises, mais ça, c'est le lot de chaque Olympiade.
Oui, c'est un peu la même chose à chaque Jeux Olympiques. Il y a des gens qu'on n'attend pas forcément, et puis il y a d'immenses favoris qui quelquefois ratent la course qu'il ne faut pas rater. Ça s'est produit dans tous les Jeux Olympiques. Mais dans l'ensemble, on va dire qu'en ski alpin, la majorité des grands favoris ont répondu présent.
Alors en patinage artistique, médaille d'argent pour Cizeron et puis Papadakis. On les attendait, peut-être l'or. Bon, il y a eu peut-être un incident de la robe, hein, qui malheureusement a un peu perturbé le couple dans sa première exhibition.
Oui, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Alors effectivement, on a beaucoup parlé de cet incident de la robe qui s'est un peu dégrafé, dégroché, qui l'a un petit peu gêné. Je ne suis pas certain que ça a joué pour la médaille d'or, même si évidemment, peut-être qu'elle n'a pas pu donner sa pleine mesure. Mais les Canadiens étaient quand même vraiment forts, très forts. Donc il n'y a pas de regret à avoir avec cette médaille d'argent pour tous les deux. On va rappeler qu'ils sont jeunes tous les deux, 23 ans. Voilà, une médaille d'argent en danse sur glace aux Jeux Olympiques, c'est déjà très bien. Ils ont déjà été double champion du monde, 4 fois champion d'Europe. Et puis ils sont encore jeunes.
Voilà. Et puis ils ont fait un programme libre extraordinaire.
Oui.
Ça a bien rattrapé l'imposé.
Voilà, un programme libre qui a beaucoup marqué les esprits et le public et qui effectivement leur a permis de marquer des points et de remporter cette belle médaille d'argent.
Oui. Eux étaient un peu déçus, mais enfin bon.
Oui, évidemment, parce que l'argent, on se dit toujours, il manquait pas grand-chose pour avoir la médaille d'or. Mais lorsqu'on regarde leur programme et la façon dont ça s'est déroulé, ils n'ont pas énormément de regrets à avoir. Il n'y a pas eu de contre-performance. Il faut tout simplement reconnaître aussi la valeur du couple canadien qui était vraiment de très haut niveau.
Ouais, et puis bon, ils reviendront dans 4 ans à Pékin.
Ils sont jeunes, ils sont jeunes encore. 23 ans, ils sont encore jeunes.
Et puis chez les femmes, c'est un doublé russe, hein. Deux jeunes de 15 ans quand même. Hein.
Oui, alors bon, on connaît l'école russe en patinage artistique. Hein. Ça a toujours été la Russie, une très grande nation du patinage artistique. Peut-être qu'on l'avait un petit peu oublié depuis quelques années. Mais bon, on va dire qu'on sait que l'école russe est une école qui a formé énormément de champions et de médaillés olympiques en patinage artistique, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, mais aussi énormément dans les compétitions en couple.
Alors ensuite, on a eu la 13e médaille qui a été obtenue sur ce jeu par la délégation française. Mais quelle médaille ? La 5e d'or, hein, en relais biathlon. Le biathlon, à lui seul, a ramené un tiers des médailles.
Oui,
alors c'est plus un demi, hein. Il y a d'autres sports qui ont progressé quand même en France. Hein.
Oui, mais comme à chaque fois, on va rappeler que le biathlon, c'est sans aucune contestation possible le sport en France qui a le meilleur ratio entre le nombre de licenciés, moins de 500, le nombre de médailles olympiques. Et c'est vrai que cette très belle médaille qui a été obtenue en relais mixte, là, c'était la course mixte avec Marie Dorin Imbert, Anaïs Bescon, Simon Destieux et Martin Fourcade. Très belle médaille d'or donc obtenue dans ce relais. Alors c'est vrai qu'il était un peu attendu, hein. On pensait au minimum à un podium, mais encore faut-il pouvoir répondre aux attentes, et en tout cas une très belle performance pour ce relais mixte. Et puis on a pu voir aussi, c'est la particularité du biathlon, que ça peut basculer à tout moment, puisqu'à un moment, notamment avec Anaïs Bescon, on a eu très peur, et finalement ça s'est bien terminé, une balle dans la cible ou à côté, ça change tout. Au biathlon, c'est aussi ça qui fait le charme du biathlon, c'est que ça peut basculer à tout moment dans le bon ou dans le mauvais sens.
Grâce encore à Fourcade qui a fait un parcours incroyable.
Oui, Fourcade qui a été fini, Martin Fourcade, de manière très impressionnante et qui a permis à la France de remporter cette nouvelle médaille d'or. Et puis je voudrais aussi tirer un coup de chapeau à Marie Dorin Imbert qui arrête sa carrière à 31 ans. Elle a obtenu 4 médailles olympiques, 17 médailles mondiales, 28 podiums en Coupe du Monde. Elle a décidé d'arrêter sa carrière pour se consacrer à sa famille. On va lui tirer un grand coup de chapeau pour l'ensemble de sa carrière.
Oui, fabuleuse carrière. Et puis, deux autres médailles de bronze ensuite sont venues remplir la délégation française.
Alors d'abord, une médaille de bronze, encore une fois, en ski de fond. Voilà. Cette fois-ci, par équipe, le sprint par équipe avec Maurice Magnifica et Richard Jouve. Voilà, alors ça, c'est vrai que Maurice Magnifica, on en parle moins que Martin Fourcade, évidemment, mais petit à petit, il fait son bonhomme de chemin. Hein.
Et puis, il est sympa en plus. Hein.
Voilà, deux médailles olympiques à Pyeongchang, une à Sochi, donc trois médailles olympiques pour ce magnifique fondeur. Et avec Richard Jouve, ils ont su décrocher une médaille de bronze, encore une fois, dans une discipline archi-dominée par les pays nordiques. Et vraiment, ils ont vraiment su tirer leur épingle du jeu de façon remarquable. On a eu également une nouvelle médaille de bronze, cette fois-ci avec les filles, au relais féminin, Anaïs Bescon et Marie Dorin, qui elle aussi termine en beauté ces Jeux Olympiques avec une nouvelle médaille pour Marie Dorin. Et puis très content aussi que Anaïs Bescon concrétise enfin tout ce qu'elle essaie entrevoir depuis quelques années, parce qu'elle n'avait pas souvent eu de chance avec les Jeux Olympiques. Cette fois-ci, c'est chose réparée.
Et puis naturellement, comme à chaque JO, il y a des places de quatrième. Hein, en ski alpin, dont on parlait des bonnes performances de Pinturo, on a eu trois, donc quatrième place pour cette équipe de France de ski. Et puis il y en a eu aussi en snowboard, avec notamment Sylvain Dufour.
Oui, Sylvain Dufour qui a terminé quatrième au slalom parallèle. Ça s'est joué aussi à peu de choses, mais ça fait partie du jeu. Également au slalom géant parallèle par équipe mixte, quatrième aussi. C'est vrai que là, bon, à chaque Jeux Olympiques, c'est pareil. On se dit, il y a toujours un certain nombre de quatrième places. Bon, on va compenser.
C'est la plus mauvaise, hein, on le sait.
Voilà, on va compenser en disant qu'il y a des médailles qu'on attendait peut-être pas forcément aussi. Mmh. Mais c'est vrai que c'est toujours rageant un peu ces quatrième places.
Ouais, alors, Hervé, naturellement, 15 médailles, on va rappeler, 5 or, 4 argent et 6 bronzes, on égale Sochi. La délégation française avait fait 20 médailles. Bon, c'est pas un échec quand même. Ce sont les meilleurs résultats avec Sochi il y a 4 ans.
Non, c'est pas un échec. 20 médailles, c'était la version très optimiste.
Oui, voilà.
Lorsqu'on regarde 15 médailles, il n'y a pas de regret à avoir. On se situe pour l'instant à la 8e place du classement général. Au nombre de médailles, lorsqu'on regarde les pays qui sont devant, la Norvège, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, voilà, on va dire que voilà, il y a peut-être une place ou deux qu'on aurait pu gagner, notamment par rapport à la Suisse, mais on va dire qu'on est à peu près à notre place.
On est à notre place. Et le fait que la Norvège soit en tête, c'est pas une surprise. Hein. C'est les sports rois là-bas, hein, en Norvège, les disciplines de neige et de glace.
Oui, la Norvège qui a 24 heures de la clôture de ses Jeux Olympiques va peut-être battre le record établi par les Américains, puisque pour l'instant ils en sont à 37 médailles, avec une médaille de plus, et la Norvège deviendrait le pays le plus titré aux Jeux Olympiques d'hiver sur une Olympiade.
Alors, grosse sensation, c'est le sport qui va fermer ces Jeux Olympiques, le Canada, qui ne sera pas championne olympique de hockey sur glace, les Canadiens battus donc en demi-finale.
Oui, alors on va dire que c'est une mauvaise édition pour le Canada, parce que d'abord une finale de hockey sur glace sans le Canada, c'est quand même rarissime.
Oui, c'est le sport roi là-bas.
On va rappeler qu'ils sont tout simplement les doubles champions olympiques en titre. Et puis malheureusement pour eux, ça s'arrête pas là, parce qu'il y a une autre discipline où ils étaient triple champions olympiques en titre. Et où ils ne sont pas non plus, ils seront pas sur le podium, c'est le curling. Voilà, où là aussi ils étaient archi favoris. On va dire que là, oui, pour le Canada, ça se passe pas aussi bien que prévu, même s'ils seront dans les 3 ou 4
troisième nation, je crois.
Voilà, pour l'instant. Voilà, donc on va dire que. Mais les Canadiens, voilà, ce que va retenir le grand public au Canada, c'est qu'il n'y avait pas d'équipe canadienne en finale du hockey. Et ça, pour eux, je ne vais pas dire que c'est une journée de deuil, mais presque.
Oui, pour bien connaître le Canada, c'est un sport qui est. C'est le sport roi là-bas. Hervé, vous les avez trouvés comment ces jeux? Moi, je les ai trouvés très sympas.
Oui.
Comme à Sochi, on s'est régalé avec des temps forts, hein, naturellement. Bon, ben, des déceptions. Mais vraiment, on s'est éclaté pendant ces 15 jours. On a bien fait de veiller et d'avoir des nuits blanches.
Oui, et moi, j'ai trouvé que c'était des très beaux Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, il y a eu beaucoup de très belles images. De nombreux exploits. On s'est pas ennuyé. Il n'y a pas eu de journée vraiment creuse. Même s'il n'y a pas eu des médailles françaises tous les jours, il y a eu quand même d'autres exploits qui ont marqué ces jeux. Et moi, je trouve que c'est une très belle cuvée que cette Olympiade de Pyeongchang.
Bon, les athlètes français vont rentrer maintenant de Pyeongchang. Ils vont être naturellement reçus par le président de la République. Ils vont être fêtés comme des héros. C'est normal.
Oui. C'est un peu, on va dire, la tradition. Et puis ramener une médaille olympique dans une carrière sportive, c'est pas du tout anodin. Qu'on le veuille ou non, même si ça fait un peu désuet de dire ça, on reste dans l'histoire de son sport comme médaillé olympique. Et ça perdure pendant des années et des années. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont remporté des médailles olympiques, qui sont plus forcément là, mais on se souvient de leur exploit.
Et puis, quelques cas de dopage, pas beaucoup quand même, mais quelques cas de dopage, et assez bizarrement dans des sports comme le hockey sur glace ou comme le curling.
Oui, alors on peut le voir comme ça, en se disant que c'est curieux de voir effectivement des gens se doper dans des disciplines comme le curling.
Et de la délégation russe, hein, avec certaines qui avaient un maillot contre le dopage.
Oui, majoritairement des Russes, voilà. Alors ça, c'est la version, on va dire, optimiste. Après, j'ai entendu aussi des versions un peu plus pessimistes, où certains disaient, c'est peut-être les seuls qui se sont fait attraper. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, j'espère que non, mais effectivement, on s'aperçoit que malgré les sanctions qui ont été prises, notamment contre la Russie, y a des gens qui continuent à ne pas jouer le jeu du sport et qui essayent tous les moyens illicites pour essayer de tricher et ramener des médailles.
Hervé, merci de nous avoir fait accompagner et suivre donc cette quinzaine olympique ensemble. Alors on retournera en Asie, hein, dans 2 ans ce sera les Jeux d'été à Tokyo, et puis on reviendra donc ensuite en 2022 en Chine pour les Jeux d'hiver.
Oui, tout à fait, puisque là ça sera honneur au continent asiatique. Voilà, Tokyo qui retrouvera les Jeux olympiques pour la deuxième fois, puisqu'il les avait déjà organisés en 1964, avec pour la première fois à l'époque l'apparition du judo aux Jeux Olympiques. Voilà, ça va être un grand moment que ces Jeux Olympiques de Tokyo.
Et puis Pékin qui aura fait des Jeux d'été et des Jeux d'hiver.
Oui, il y a très peu. Ça, c'est plutôt rare en général, voilà, de pouvoir organiser les Jeux d'été et les Jeux d'hiver dans la même ville. Ça sera une grande première pour Pékin.
Merci Hervé. Puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour le chemin de Rambouillet.
Tout à fait. Dans 15 jours, ça approche tout doucement et on va croiser les doigts au niveau de la météo.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche, à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Oh,
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Voilà, donc le rendez-vous est pris avec Hervé Joly. Pour finir cette émission, je voudrais quand même vous rappeler le classement des tracks des villes royales qui s'est déroulé la semaine dernière entre le château de Versailles et Rambouillet, où on est arrivé notamment à l'hippodrome. Dans l'épreuve donc des trails individuels, 52 km, c'est Thomas Bénichou qui s'est imposé de l'équipe de Tremblay Athletic Club en 3h52 minutes devant David Wanster de la Société Générale en 4h02 minutes et 7 secondes. Troisième, Roc di Beneto Romain de hier en 4h13 minutes et 49 secondes. La première féminine, c'est Sandrine Barris, elle termine 48e en 5h12 minutes et 7 secondes. Et dans l'épreuve par équipe en relais de 52 km, victoire d'un trio, Arnaud, Nicolas et le frère Arnaud du team Outdoor Poly en 3h43 minutes et 7 secondes. Deuxième, Laurent, Adrien et Denis de la Croix-Rhône Villepreux en 3h48 minutes et 15 secondes. Et troisième marque, Adrien et Rémi de Saint-Cyr Triathlon en 3h55 minutes et 19 secondes. Le premier trio mix, et c'est Sonia, Anthony et Nicolas des Twix en 4h20 minutes et 11 secondes. Et puis je voulais vous dire que il y a eu l'annulation du semi de Bullion il y a quelques semaines, mais tous les bénéfices des frais d'engagement ont quand même été donc reversés au HPR. Bon dimanche à toutes et à tous, merci pour votre fidélité durant cette quinzaine olympique, et la semaine prochaine, place à Tribune Foot, 10h-11h. Bon dimanche à tous.